projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes.
La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires.
Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie punitive.
Les espèces de Parisiens là, qui font 7 minutes de vélo par jour, ils ont l'impression de faire repousser la forêt amazonienne.
Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale, qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources.
Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement.
La traverse, transition en terre inconnue, épisode 12. Los Angoel 1 sur 2, du noir au vert, la mise en récit d'une transition. La voix que vous entendez est celle de Maxime Verdun, et c'est moi qui suis aux manettes de cet épisode, sur un territoire traversé, écouté et observé, aux côtés de Solène Cordonnier. Tout le monde ne le sait pas, mais Los Angoel, commune de 7000 habitants dans le Pas-de-Calais, est connue en France, en Europe et dans le monde comme une référence en matière de développement durable. Son maire, Jean-François Caron, est régulièrement l'invité phare de journées d'échanges, d'événements, d'émissions qui abordent le sujet de la transition écologique. Hasard du calendrier, le jour de notre arrivée en janvier, il était l'invité d'une émission concurrente.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Jean-François Caron.
Bonjour.
Los Angoel, dans le Pas-de-Calais 62, vous avez converti cette ville à l'écologie, ville de 7000 habitants qui est devenue un modèle. Alors il paraît qu'on vient vous voir de toute la France.
Pourquoi cette notoriété est-elle justifiée? Comment Los Angoel est-elle devenue une ville pilote du développement durable? Quelle est la stratégie déployée par la ville pour construire sa transition? Est-ce réplicable ou propre au contexte local? Pour répondre à ces questions, il nous fallait au moins deux épisodes. Dans celui-ci, on évoquera surtout la démarche de mise en récit du territoire et les orientations stratégiques que cette mise en récit implique. Je n'en dis pas plus et laisse la parole à Julien Perdrija, directeur de cabinet à la mairie de Los Angoel.
La ville de Los Angoel, c'est une petite collectivité urbaine et en même temps rurale. Il y a toute une ceinture agricole et en même temps un pôle urbain quand même assez dense du fait de la structuration de la ville autour des puits de mine. Elle est située dans le bassin minier, qui est une nappe urbaine de 120 km de long, 12 km de large et 1,2 km de profondeur. On y extrayait du charbon à plus de 1000 mètres sous terre. Et Los Angoel, comme les autres villes du bassin minier, a vécu les conséquences en fait, de cette exploitation minière. Donc c'est un territoire qui est marqué foncièrement par cette industrie. Vous avez les plus hauts terris d'Europe qui sont présents ici. On a compté près de 300 terris sur l'ensemble du bassin minier, donc avec une emprise foncière très très forte et des conséquences urbaines, environnementales et sociologiques très marquées du fait de cette exploitation. À une époque où ce n'était pas du tout à la mode et où on n'en parlait pas, en fait, Los Angoel s'est engagé dans cette voie alternative. Alors, elle l'a fait un peu en dépit du reste, c'est-à-dire qu'il y avait un effondrement social, économique, une espèce de crise systémique qui était très très forte, hein, le chômage qui explose, les mines qui ferment les unes après les autres, les gens qui se retrouvent au chômage, et donc pas seulement sans activité, mais même sans perspective, c'est-à-dire que pendant 3 siècles, on a formé les gens à creuser et à extraire du charbon, et en l'espace d'une génération, ils vont passer à un statut de déclassé social, on ne sait pas quoi en faire, et voilà, les gueules noires un peu dans l'imaginaire comme ça, collectif. Donc la force, je pense, de Los Angoel, ça a toujours été de s'inscrire dans une trajectoire. On retrouve ça très très loin dans les archives. Par exemple, le phénix qui est sur le blason de la ville, aujourd'hui, il symbolise très bien ce qu'on peut imaginer d'une résilience écologique. Mais il n'est pas là pour les questions écologiques au départ, il est là parce que la ville a été détruite plusieurs fois de manière successive avec les guerres, et que la ville a toujours su se reconstruire malgré ces crises très fortes. Et donc, à travers le temps, tout ça fait récit à un moment donné, tout ça fait cohérence. Mais je pense que le point de départ pour moi, il est quand, en 1982, un groupe de Lossois, des lettrés, qui sont des profs, des historiens, des géographes, décide de sortir la première monographie sur l'histoire de la ville. En fait, il n'y en a pas jusque-là, Wikipédia n'existe pas. Quand vous cherchez des informations sur pourquoi vous en êtes là où vous en êtes, il n'y a rien. Il n'y a pas de bouquin, il y a des mémoires. Et donc, tout le travail va consister à rédiger à partir de toute la matière qu'ils ont pu récolter à l'époque. Et Marcel Caron préface, il est maire à ce moment-là, le livre, et il prend conscience à ce moment-là qu'il y a dans le patrimoine local, en fait, il y a un levier, en fait. Il y a dans le patrimoine culturel local un levier de développement. C'est-à-dire un espèce d'espoir malgré le cataclysme ambiant. Et donc, 2 ans après, il va fonder les Goéliades avec son équipe, donc un festival culturel local qui vise à ouvrir les salles municipales et à permettre aux uns et aux autres d'exprimer leur art et leur poésie, de la peinture, enfin... Et les Goéliades, ça existe depuis 30 ans. C'est-à-dire que depuis 1984, on a ce festival qui, chaque année, permet aux Lossois d'exprimer qui ils sont. Les Goéliades, c'est une logique un peu d'Olympiade, et en même temps, du pays de la Goëlle. Donc, ce n'est pas non plus centré sur l'os, c'est déjà une vocation d'identité ouverte dans un territoire qui n'est pas prédéterminé, qui ne colle pas avec les strates administratives, qui est comme ça une intention politique. Et dans ces moments culturels, quelque chose de très fort, je pense, qui va permettre le développement de la ville ensuite dans cette perspective de développement durable, c'est la création de spectacles narratifs sur les anciens carreaux de fosse que l'État veut détruire. La ville de Los Angeles fait jouer des spectacles, sons et lumières, par les Lossois, qui racontent l'histoire des Lossois. Donc vous avez des anciens mineurs qui sont au chômage depuis quelques mois à peine, qui se retrouvent sur scène dans leur habit de travail à exprimer ce qu'était la vie de mineur à Los Angeles et ce qu'est la douleur de perdre cette identité. Dans la mise en récit et donc dans la mise en mouvement de la ville, ils ont joué et ils continuent de jouer un rôle fondamental.
Los a d'abord, s'est d'abord trouvé dans une situation de se relever.
Jean-François Caron, maire de Los Angeles.
D'essayer de pouvoir construire ensemble des réponses sur des sujets qui étaient des graves meurtrissures pour la population, les hommes qui mouraient très tôt de la silicose, des paysages détruits, une qualité de l'eau catastrophique, une image totalement dépréciée qui faisait qu'on s'excusait d'exister... Bon, on était présentés comme les demeurés quand même. Quand une caméra vient chez nous, elle filme un enfant dans le nez coule, un carreau cassé, atterri dans le fond. Et quelquefois, on nous sous-titre. Ils vont trouver des gens, on se demande où ils les trouvent, qui parlent comme Chaumi. Louisiette, ah, t'es allé au match, ouais, bon. Et on se dit, ouf, c'est du lourd, quoi.
Rémi Chimot, donc je suis animateur environnement au CPE Chêne des Terris. Alors, le CPE, c'est d'abord une association qui a été créée il y a une trentaine d'années dans le but de protéger, préserver, valoriser les friches minières, donc en particulier les terris, pour pouvoir opérer un changement d'image de la région, donc suite à toute l'exploitation charbonnière et puis tout ce qui était diffusé par les médias comme image négative. Hein, donc l'idée, c'était de se battre contre... cette image de pays noir qui avait été créée, forgée par les médias à l'époque, pour pouvoir donner donc une image plus positive de la région, retrouver de la fierté à entreprendre, redynamiser le territoire. Ce patrimoine, c'est un héritage culturel déjà, social aussi. C'est quand même une histoire qui a duré presque 300 ans donc sur ce territoire. Donc ça a une empreinte très très forte. On n'était pas forcément fiers de ce patrimoine-là, puisqu'on en disait presque que des choses négatives. Hein. On parlait que des accidents, des maladies, on montrait que la misère.
Courrières, c'était en 1906. 1200 morts. 56 ans plus tard, la mine continue d'engraisser les cimetières. Le mineur de fond a beau prendre rang parmi les travailleurs ordinaires, ne plus être l'homme enchaîné aux anciennes compagnies privées. La mort est toujours au rendez-vous, aussi fidèle, assidue, attentive.
Qu'est-ce que c'est? Comment ça fait la silicose? Expliquez-moi ça. Bon, en principe, on est un peu handicapé.
Pour respirer
Pour respirer, on est plutôt essoufflé alors que les autres n'y sont pas.
On nous a indiqué pour le moment probablement un coup de poussière.
Vous avez entendu l'explosion ?
On a entendu un bruit.
Et ça a ravagé un grand secteur ?
Oh ouais, un arbre au théon, si j'ai plus de encore d'eau au fond.
Qui sont encore au fond et on ne peut pas les retirer ?
Ah si, on peut, si.
Lorsque ça sera aéré ?
Ouais, ouais.
C'est encore dangereux ?
Oh ouais, ça sent plus quand le mot.
Ça sent quoi, le gaz ?
Fumer toujours le gaz, ouais.
La mine, elle, dure depuis un siècle long comme une immense nuit. Et le charbon l'obstrue toujours. Pour combien de temps ? Selon les prévisions, il reste dans les filons du Nord et du Pas-de-Calais de quoi user encore deux générations de gueules noires. Autant dire que les cimetières conserveront leur clientèle en attendant que le charbon ne se soit effacé devant la tourne.
Je vous prie de m'excuser, mais on est en train de vivre là la dernière remontée en direct. Est-ce que vous pouvez nous faire partager un petit peu vos émotions là ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ?
Ah bah, on a
un peu de tristesse, de l'inquiétude.
Il y a un peu de tristesse parce qu'on quitte tout. Tout est arrêté, quoi, que tous nos camarades, tout ça, qu'on a, ça fait 10-15 ans qu'on travaille ensemble.
Ouais.
Et c'est certain qu'on est triste.
Alors la fameuse solidarité légendaire dont on parle depuis très longtemps à propos des mineurs, est-ce qu'elle va, à votre avis, se perpétuer lorsque tout ça va s'arrêter ?
Vous allez vous revoir souvent ?
Bah, c'est pas, parce que bon, y a des gens qui sont un petit peu de tout partout. Hein. Y a des gens de Valenciennes, de Beauvais, de Béthune. On se reverra peut-être un jour, mais il n'y aura plus cette solidarité qu'il y avait au fond. Hein.
En fait, c'est toute la tragédie de la fin d'une société que vivent aujourd'hui les hommes du pays noir. La concurrence du pétrole et du gaz naturel, épuisement des veines, le poids toujours croissant des retraites et des charges salariales rendent économiquement impossible la continuation de l'exploitation minière. Le paysage lui-même va se modifier. Sur l'emplacement des vieilles fosses et de leur chevalement, des usines nouvelles doivent surgir. Mais seront-elles implantées en nombre suffisant ? Pour éviter à la population les drames du déracinement. Ces enfants qui jouent dans les rues des vieux corons sont eux aussi fils de mineurs, petits-fils de mineurs. Mais pour eux, une certitude, ils ne seront plus mineurs à leur tour. Le fil des générations est aujourd'hui rompu. Ces enfants, quel destin l'avenir leur réserve-t-il ?
Alors, je m'appelle Valérie Caron. Alors, je précise qu'il n'y a pas de lien de parenté avec Monsieur le maire, déjà, pour commencer. Les choix qui ont été faits à la fermeture de la mine d'investir sur cette notion de richesse culturelle, hein, ce qu'on appelle l'économie mauve en général, ça a constitué, en fait, le terreau de ce qui est aujourd'hui la reconnaissance, la fierté, l'estime de soi qu'ont les habitants sur des choses plus concrètes. C'est-à-dire que voilà, d'abord, soyons fiers de ce que l'on est, de ce que les ancêtres, nos pères, nos grands-pères ont fait, de ce qu'est la mine. Battons-nous contre l'image noire qui nous colle à la peau. Et puisque nous sommes en crise, inventons de nouvelles solutions. Et tout ça fait que il n'y a pas, enfin c'est pas fragmenté, c'est vraiment un continuum en fait. Et la base, je pense que ça a été cette conviction qu'a eu à un moment donné le maire précédent, donc Marcel Caron, de travailler sur l'estime de soi des gens, sur leur trajectoire, donc leur histoire, et ensuite d'avoir gardé toujours ce fil rouge pour mener toutes les actions. Alors, je ne vais pas m'attirer la sympathie des Lossois, mais n'étant pas Lossoise moi-même, un des trucs qui m'a marqué quand je suis arrivée à Lossangoël, c'est que déjà au départ, ils étaient bien chauvins quand même. Hein. C'est vraiment, il y a cette notion de fierté d'appartenir à Lossangoël qui était déjà très présente. Ça l'est encore plus aujourd'hui, déjà par le fait que au niveau des médias, on occupe une place qui est assez sympathique pour une petite ville comme ça. Hein, donc, et puis surtout, les Lossois ont des choses à montrer et à raconter, justement. En disant, non mais attendez, c'est pas que du vent, hein. Si on parle de Lossangoël, c'est parce que c'est vrai, hein. Moi je l'ai vécu, il y a ça, quoi, c'est clair. Tous les jours je vais à tel endroit, si je tire la chasse d'eau, c'est de l'eau de pluie récupérée. Ça fait depuis 1997 que c'est comme ça. Enfin, voilà, je pense que la fierté, elle a toujours été là. Aujourd'hui, elle est objectivée, en fait.
Et ensuite, il y a eu tout un travail fait sur justement la compréhension que l'os, c'était pas une île, mais qu'on était en fait dans une communauté de destin. C'est la chaîne des Terry. Cette chaîne des Terry, elle est inscrite ensuite en 2012, enfin le patrimoine minier à l'UNESCO. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de continuité comme ça. Et dans les années 90, tout un travail porté notamment par Jean-François Caron, en tant que conseiller municipal, sur un projet de ville, c'est-à-dire comment on se projette collectivement dans une ville qui répond aux enjeux du 21e siècle, puisqu'on a cette perspective de passer le cap de l'an 2000. Et donc, entre 1995 et 2000, tout un processus comme ça de réunions, d'ateliers de travail avec les Lossois, à qui on n'a jamais demandé leur avis jusque-là, ou si peu. Enfin, le paternalisme minier, il est quand même très ancré. On ne demande pas aux gens leur avis. Ils ne sont pas là pour dire ce qu'ils ont envie d'avoir. Ils sont là pour exécuter, point barre. On est quand même sur une organisation très pyramidale, très hiérarchique. Et donc, ce processus-là fait que les Lossois peuvent ouvertement critiquer ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, émettre des rêves, des perspectives, et puis les retrouver consolidés dans un document qui s'appelle donc la Charte du cadre de vie, qui sort en 2000. Ce document, je peux vous le montrer ici, mais il est d'une simplicité vraiment limpide. Il dit voilà comment on passe du noir au vert, pays du charbon, énergie renouvelable, paysage noir, plan paysager, plante des arbres, les terris, des crassiers à ciel ouvert, on en fait des lieux de nature et de rebond. La base 11-19, là où on jouait le spectacle dans les années 80, bien, qu'est-ce qu'on lui donne comme seconde vie? Un pôle dédié aux éco-activités. On est issu du paternalisme, on va développer tout ce qui est implication citoyenne, participation des habitants, etc., etc. Voilà. Et cette charte du cadre de vie, c'est encore le socle sur lequel aujourd'hui on appuie le développement de la ville de Los Angeles. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce document, il a aucune valeur légale. C'est pas un plan climat, c'est pas quelque chose qui peut être voilà. Par contre, il a été produit en fait en même temps que la révision du plan d'occupation des sols. Donc le POS s'en est directement inspiré et tous les documents, toute le développement de la ville, la planification de la ville qui va s'en suivre, vont être ancrés en fait dans ce canevas. Et la force de ce document, c'est qu'il a été coproduit par l'ensemble des parties prenantes et il a été signé par l'ensemble de ces parties prenantes, les agriculteurs, les commerçants, etc. Donc, quand Jean-François Caron devient maire en 2001, tout ce travail, en fait, il est déjà là. Donc, d'une certaine manière, on est solide collectivement pour commencer à appliquer le programme.
Donc, effectivement... Il y a dans la reconstruction de l'os, dans la reconquête d'une forme de dignité, tout un travail qui a commencé dans les années 80 par une action culturelle sur les Goéliades. Je ne sais pas si Julien vous en a parlé de tout ça, et qui ensuite a commencé à se traduire par des premiers actes comme la charte du cadre de vie. Parce que l'intérêt, c'est que sur le cadre de vie et l'environnement, ça, on voit des résultats rapidement. Donc ça permet de oui, ça permet d'embarquer les gens quoi, assez facilement. Bon. Du coup, par rapport à ça, les étapes ensuite sont allées jusqu'à ce que Los devienne une ville un peu pilote au niveau national. Mon sujet, c'était on reprend notre destin en main. On est des oubliés de l'histoire, on est des largués. Donc on reprend notre destin en main. Pour le faire, il faut d'abord compter sur nos ressources intimes, retrouver de la confiance, retrouver de l'estime de soi, de la dignité. C'est pour ça que j'ai fait l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial après. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement, on a traité un certain nombre de nos problèmes. Pas tous, mais par exemple, les questions de santé, les pollutions massives et tout ça. On va garder ça jusqu'à tout le temps. Parce que c'est des imprégnations, donc il y a un temps de latence important. Par contre, pour le coup, en termes d'image du territoire, alors là, on a retourné complètement le truc. L'os est devenu, the place to be, quoi, qu'il faut venir avoir visité, aussi bien pour des gens comme vous que pour des journalistes.
La particularité de Losangoël, c'est d'avoir d'être pionnier, mais sur tous les sujets.
Marie Décima, chargée de mission environnement au Centre de ressources du développement durable.
Sur d'autres territoires, on va dire, qui vont être dynamiques sur un projet alimentaire parce que ça les concerne, ils vont être dynamiques sur des projets liés au bâtiment parce qu'ils sont dans cette urgence-là. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant quand même, c'est... Moi, ce qui m'intéresse sur Losangoël, ce que je trouve intéressant, c'est le fait de s'interroger sur la manière de changer le regard qu'on a sur ce territoire, mais surtout le regard qu'ont les habitants sur les territoires. Et c'est sur ça, je trouve, qu'ils sont vraiment intéressants parce que, comment dire, c'est, je pense que c'est comme la culture. Tout le monde se dit, mais pourquoi la culture changerait un territoire ? C'est dur de le démontrer. Pourtant, c'est réel. Et là, c'est pareil. Ce qui est réel, c'est que le jour où les habitants du bassin minier auront un autre regard de leur histoire, avec une vision... ils peuvent être fiers de leur territoire. Le jour où ils seront convaincus de ça, ça changera pas mal la dynamique de ce territoire. Et c'est en ça où Losangoël est vraiment pionnier, parce que c'est les premiers à avoir imaginé des projets qui permettent ça.
Déjà, le fait qu'il y ait une crise à la fin de la mine, vous savez, quand moi je dis toujours l'enjeu, c'est l'épée dans les reins. C'est-à-dire que le territoire s'est trouvé dans une telle situation de marasme socio-culturel, économique, environnemental, qu'en gros, c'est soit on crevait, soit on vivait. Et si on trouvait les éléments pour vivre ou survivre, c'était forcément des éléments qu'on allait inventer, des choses un peu décalées. Donc ça, tous les territoires l'ont pas. Nous, ça nous a été imposé. Ça, on l'a pas choisi. Hein. Enfin, le territoire l'a pas choisi. Donc c'est comme ça que peut-être que les choses ont été plus rapides et peut-être plus marquantes. Après, vous allez sur n'importe quelle région de France. Toutes les régions de France ont une histoire extrêmement riche. Reste à trouver dans cette histoire riche les éléments déclencheurs. Pour avancer et faire s'appuyer sur cette trajectoire et faire quelque chose de plus grand. Si je vais prendre l'exemple du littoral, par exemple le littoral dunkerquois. Bon, je connais bien, moi je suis originaire du littoral. Le littoral dunkerquois, il est par exemple aujourd'hui encore très marqué par une trajectoire économique liée à la sidérurgie, etc. Qu'est-ce qui fait de ça ? Est-ce que, à un moment donné, il dit, ben, effectivement, ça va être un peu l'enjeu. Hein, est-ce qu'on reste dans ce principe de mono-industrie qui risque de disparaître à n'importe quel moment, comme l'a fait la mine, hein ? La mine, il n'y a pas eu de signes annonciateurs terribles. Hein, il y a eu des signaux faibles en disant, attention, ça va bientôt se terminer. Puis d'un coup, boum, plus rien. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que les territoires industriels... utilisent ces éléments de trajectoire, voire regarder ce qui s'est passé ailleurs pour eux-mêmes mettre en place des solutions alternatives. C'est le cas, hein, si vous prenez la ville de Grande-Synthe. Bon, voilà. Dunkerque fait beaucoup de choses aussi. Et dans les territoires ruraux, je pense que c'est un peu la même chose. Si vous prenez le volet rural et agricole de Losangoël, jusqu'à très récemment, on avait plutôt à en rougir qu'en être fier. On était sur effectivement de la culture industrielle, de la production de blé industriel, des légumes pour les grandes conserveries de la région, etc. Et puis aujourd'hui, on a 13% de notre surface agricole utile qui est transformée en bio. Donc, poser un moment le récit, c'est pas toujours valoriser une histoire, c'est en tirer les leçons.
Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qu'on pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi.
chez moi. Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau chez moi, il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Je viens de la terre du milieu, où y'a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place. Julien Clerc dans le monospace, je freestyle dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau, il fait beau. Il fait beau chez moi, il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi y'a du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau. Autant de pluie chez moi. Toujours 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 autant de pluie chez moi.
Orelsan, la pluie. Julien Perdrigel expliquait, la stratégie politique découle du récit local. Alors comment concrètement la ville passe-t-elle du noir au vert ?
Tout le territoire a été maîtrisé par l'homme. Hein, et ce qui restait finalement après l'exploitation, ce sont les terris qui étaient en friche, qui ont été plus ou moins délaissés et qui ont peu à peu été colonisés par des plantes, des animaux. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, si on recherche un espace avec de la biodiversité, bien souvent ce sont les terris, quoi. Il reste quelques zones humides, après c'est selon les secteurs, hein, plus ou moins de zones humides ou encore des zones forestières dans certains secteurs, mais de manière générale, en tant qu'espace naturel, ce sont les terris qu'on a nous, au cœur de ce bassin minier. Dans le bassin minier, ce sont les sites les plus riches en biodiversité. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de concurrence non plus, puisqu'il y a beaucoup d'urbanisation, il y a beaucoup d'industrie, il y a encore aussi pas mal d'agriculture conventionnelle. Alors, il n'y a pas d'espèces endémiques, il n'y a pas de création d'espèces forcément sur le terrain. Il y a des hybrides hein, qui se forment, parce que ce sont des milieux, il y a beaucoup de milieux différents qui s'entrecroisent sur ces sites qui sont quand même très particuliers. Sinon, c'est un support, un refuge surtout pour les insectes qui ne trouvent plus de milieu naturel propice aux alentours. Ce sont des zones où les oiseaux aussi vont pouvoir se réfugier, se reproduire plus facilement. Ce sont des sites qui font aussi office de halte migratoire. Donc c'est là c'est pour ces raisons-là qu'on va trouver des espèces un peu particulières parfois dans la région, enfin, en tout cas dans le bassin minier. On a des espèces végétales qui reprennent possession des lieux. On a des espèces qui étaient considérées comme disparues dans le secteur qui se mettent comme ça à pousser, à revenir régulièrement grâce aux terris.
On repère en fait dans le centre-ville un drapeau qui est à 15 mètres au-dessus du sol. Et ce drapeau en fait marque le niveau du sol il y a quelques centaines d'années. Donc pour se commémorer le fait qu'il y a eu des affaissements de terrain du fait des effondrements liés à l'exploitation minière, Donc vous avez une ville aujourd'hui qui est en forme de petite cuvette. Alors c'est agréable, visuellement c'est sympa. Il y a de la profondeur de champ quand vous êtes sur la rocade minière ou quand vous êtes sur les bordures de la ville, mais c'est pas naturel. Ailleurs sur le territoire du bassin minier, vous avez des nappes phréatiques qui sont remontées à la surface et qui ont créé des lacs néo-naturels. Donc on est sur un territoire en fait qui visuellement est marqué par la main de l'homme et en même temps par une nature qui a repris ses droits suite à cette exploitation anthropologique. Bon, c'est du coup, je pense, un territoire dans lequel on peut vite perdre ses repères et en même temps en trouver.
Donc la base 11-19, c'est un site qui a évolué au fur et à mesure du temps. Hein. Ici, le puits 11 donc, a été creusé par la Compagnie des Mines de Lens à partir de 1891. Et le 19 a fonctionné à partir de 1960, donc c'est deux époques différentes. Donc le 11, c'était le temps des compagnies minières, qui avaient chacun une partie du territoire, hein, donc c'était découpé en concessions. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, il y avait un besoin de reconstruire, réalimenter toute cette économie qui fonctionnait par le charbon. Et donc l'État a nationalisé les mines, modernisé, rationalisé l'exploitation en créant des nouveaux puits beaucoup plus puissants, modernes, comme le 19, avec sa grande tour en béton là, qu'on peut voir ici encore aujourd'hui sur le site, qui en fait remontait les charbons et les roches aussi d'une dizaine de pieux alentours. Tout était relié par le sous-sol, par ce genre de puits.
Le site 11-19, il y a eu l'idée de le rénover et la première structure à être installée, c'était culture commune. Donc c'était l'idée de dire la culture a sa place dans un territoire en reconversion. Et ensuite, c'était de dire on voudrait un site en reconversion, donc ce site 11-19, mais en reconversion qui montre ce paradoxe, enfin qu'on pourrait penser un paradoxe, c'est de dire on va faire un pôle environnemental ici, sur ce site en reconversion.
C'est donc sur les friches de l'industrie minière que s'est développée physiquement la trajectoire écologique de Los Angoels. Les terris sont les refuges des insectes et des oiseaux, et à leurs pieds, les anciens puits 11 et 19 font office de pôle environnemental. Mais c'est sur la base d'autres caractéristiques fondamentales du passé minier, le paternalisme et la misère sociale induite par la fermeture des mines, que se structure aujourd'hui un pilier de la démarche lossoise, l'implication citoyenne.
Alors je suis Jean-Louis Hotte, je suis le directeur de la maison du département Solidarité de Lens-Liévin. Ce territoire, eh bien, c'est le territoire du cœur de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, hein, ce fameux bassin minier qui part de l'ouest du Béthunois pour aller au-delà de la frontière belge, hein, sur Mons, Charleroi, etc. Sur ce secteur, eh bien, ce secteur, c'est celui qui a été le plus impacté par l'exploitation minière, 200 années d'exploitation, qui a fortement marqué les mentalités, les modes de vie, par son aspect paternaliste, par le côté protectif de sa population. C'est ce qui marque le plus ses habitants encore aujourd'hui, même si l'exploitation s'est arrêtée il y a maintenant plus de 20 ans. Donc c'est toujours marqué dans les paysages, c'est toujours marqué dans les mentalités, dans les modes de faire, dans ce côté très assisté de cette population, qui progressivement s'est tourné vers les élus, vers les services, à la fermeture des houillères, vers qui ils se tournaient auparavant, et qui régentaient l'ensemble de leur vie, de leur naissance à leur mort, en passant par la religion, par l'éducation et tout le reste.
Je dirais que ça renvoie pratiquement à des considérations psychologiques qui sont liées à la psychologie de la motivation. Si une motivation, elle peut vous arriver d'en haut, hein, ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, où on vous dit il faut absolument que vous participiez à ces ateliers, vous savez ça va être bon pour la planète, ça va être bon pour votre facture. Si cette motivation à un moment donné elle ne devient pas intrinsèque, c'est-à-dire que les gens en ont pas compris le sens et n'en ressentent pas des effets, ils vont lâcher forcément. parce que surtout, enfin, si je parle des plus précaires, les faire sortir de chez eux, de leur quartier déjà, c'est compliqué. Leur faire tenir à raison, je sais pas moi, d'un atelier par mois, leur faire tenir cette cadence, c'est compliqué. Il y a toujours quelque chose. Il y a les enfants qui sont là, il y a toujours plein, ce que j'appelle le syndrome du grain de sable, il y a toujours quelque chose qui va faire qu'ils vont décrocher. Donc on est dans les choses qui doivent être concrètes, qui leur parlent. Et c'est seulement à ce moment-là que vous arrivez à fidéliser.
Quand il y a urgence, ce sera une urgence sociale pour moi, pas une urgence écologique, mais les deux sont liés. Si l'écologie va mal, le social va mal. Voilà, je mets cet enjeu à ce niveau-là. Et donc sur ce territoire d'autant plus parce que finalement c'est un territoire qui a été écologiquement pas mal détruit et socialement il y a pas mal donc de dispositifs à réinventer déjà socialement d'éducation populaire pour aider les personnes en difficulté, et ce serait bien de le faire avec cette idée que les personnes peuvent aussi porter un ADN de l'environnement, on va dire. Moi, je le vois plus comme ça. Que ce soit pas de dire aux habitants, prenez plus votre voiture, mais non, enfin, de toute façon, c'est une histoire de choix, le développement durable. Si la voiture reste encore plus commode que le fait d'avoir des transports doux, moi je comprends que les gens prennent leur voiture, je ne vais pas leur imposer. Par contre, comment on développe des projets pour que demain, ces personnes, spontanément, se disent « Ah ben tiens, je suis dans une dynamique où je vais essayer de créer un choix différent, où on va essayer de construire un choix différent. » Moi, je le vois comme ça. La capacitation, voilà, c'est ça. Et ça demande... Alors c'est pareil, la condition sine qua non pour moi, et c'est pour ça que je trouve intéressant la démarche de Los Angeles, c'est que pour avoir une capacitation, faut que les gens aient une estime de leur territoire. Se disent que c'est possible de le faire sur leur territoire, que voilà, c'est la condition sine qua non. Sinon, ils vont se dire, ah bah non, c'est possible à Lille, c'est possible, mais c'est pas possible ici, dans le bassin minier. Bah si, ça l'est. Et c'est ça qui est important. Je pense que c'est là où est un gros enjeu ici dans le bassin minier.
Plus on va partir des usages et des besoins, plus on va partir de la diversité des situations pour à chaque fois mettre en place un processus de construction collective, de co-construction, de co-design, pour faire plus moderne, maintenant on dit comme ça, plus on va forcément multiplier les portes d'entrée pour que des populations différentes trouvent leur place dans le débat. Et si par exemple vous mettez en co-construction les horaires de la petite enfance, du service petite enfance, vous voyez arriver les parents dans leur diversité. Et dans leur diversité de situation, et donc forcément, c'est des politiques d'inclusion au sens où c'est pas réservé à certaines élites, c'est pas uniquement réservé à ceux qui savent parler, c'est l'usager qu'est chacun à ce moment-là qui peut prendre la parole.
Déjà, il y a, je pense, un truc qui est en continu, qui est pas un événement, mais qui se répète tout le temps au cours de l'année et depuis des années, c'est le 50-50. Vous en avez peut-être parlé. Je ne vois pas comment on pourrait mieux illustrer ce partenariat qu'on peut avoir avec les citoyens sur des actions extrêmement ciblées. La demande, l'idée peut venir de la population, ok, mais comment les citoyens s'impliquent pour réaliser le projet. Et dans tous les domaines. Vous l'avez sur les questions de la propreté, vous avez sur les questions du fleurissement, vous avez sur les questions de la production maraîchère, enfin bon, voilà, sur tous les domaines, 50-50, 50-50. C'est un partage d'investissement. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que l'investissement, il n'est pas forcément financier de la part des gens qui viennent avec un projet, ça peut être du temps. Ça peut être le fait d'être responsable de quelque chose. Je vais vous donner un exemple que je connais très très bien. Il y a une association de marche nordique qui s'appelle les Caribous des Terris, qui emprunte donc les chemins de la Ceinture Verte et du Terri 11-19 pour leur pratique trois fois par semaine. les caribous sont venus dire à monsieur le maire à un moment donné, écoutez, on trouve que nos chemins sont bien entretenus, mais ça pourrait encore être mieux. Et ils ne sont pas venus en disant, est-ce que les services techniques peuvent passer encore plus souvent? Ils sont venus en disant, monsieur le maire, nous, association, puisqu'on est usagers, on se propose de les nettoyer, de les entretenir au fil de nos balades, et puis une fois par an, de faire un nettoyage un peu plus complet. Monsieur le maire ne va pas dire non. Mais en gros, le 50-50, c'est OK, et dans ce cas-là, on va vous aider pour quand vous avez besoin de salle pour faire un événement, quand vous avez votre assurance annuelle à payer, ben on va vous mettre le montant de la subvention, voilà. Et en fait, ces gens s'investissent sur du temps et sur une fonction bien donnée, bien précise. Voilà. C'est du 50-50, c'est un partenariat.
Par exemple, une des choses qu'on a qui est très marquante à Loos, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup moins d'incivilité que dans les communes autour. On a quatre fois moins, c'est le commissaire de police hein, qui me dit ça, on a quatre fois moins de plaintes entre voisins que dans les villes autour. Donc, ce qui veut dire qu'il y a dans le vivre ensemble des effets de la politique de Loos en Goël en matière notamment de coproduction de la ville, de processus d'écoute, de considérer que le lien est plus important que le matériel, quoi. Et donc, ben ça, y a plein de choses qui concourent à ça. Mais donc, du coup, on a beaucoup moins de plaintes entre voisins, on n'a pas d'attaque du tout sur abribus et de tag. Quasiment depuis que je suis maire, je pense qu'on n'a jamais eu un abribus cassé. Alors que les services de transport nous disent que dans les villes de même taille et de même sociologie que Loos, ben oui, ils ont des problèmes de ce type-là. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, sur tout ce qui est agression au bâtiment public. Un jour, c'est un inspecteur qui me disait ça, parce qu'ils ont des formulaires, les flics. Ils ont à peu près une trentaine d'items qui leur permet de classifier les agressions, les incivilités, etc. Et alors, le commissaire me dit, c'est incroyable, quand on regarde votre population, vous avez les mêmes violence aux personnes que dans les autres villes. Par exemple, violence conjugale, violence sur enfants, bagarre dans la rue, tir de balle, parce qu'il y en a aussi, hein, partout. Partout. Donc, il dit, vous avez la même population qu'ailleurs. Mais alors, tout ce qui est bâtiment public est effondré. Vous avez, il n'y a pas de signalement d'agression sur les classes, par exemple. On ne se fait pas voler les ordinateurs dans les classes. Il n'y a pas de... Et donc, du coup, l'analyse qu'on en faisait, comme il y a des chercheurs qui viennent souvent à Loos, c'est sûr que la coproduction de l'espace public, c'est pas un schéma conceptuel que de le dire, c'est la réalité des chiffres qu'on observe.
On vous a parlé peut-être de la couverture qui avait été, le foulard, enfin le cache-nez qui a été... Ouais. Alors voilà, ça c'est un exemple. Un truc qui ne sert strictement à rien si ce n'est à générer du lien social. Une association de Loos en Goël qui vient, qui s'appelle Loos Stricot, et qui vient en disant, écoutez, monsieur le maire, il y avait le classement de l'UNESCO, donc pour marquer le coup, nous, on a envie de mettre un cache-nez, de tricoter un cache-nez et de le mettre autour du terri. Alors techniquement, c'était absolument impossible, parce que c'est près de la rocade, il fallait éviter que le truc s'envole, etc. Et donc, du coup, monsieur le maire dit, écoutez, on va le tricoter, ce cache-nez, mais au lieu de le mettre à demeure sur le terri, bah, il y aura une journée où on montera l'écharpe et on va ceindre le terri avec cette écharpe. Et là, se met en place non seulement cet assaut, hein, il y avait quelques dizaines de personnes, c'était pas énorme, mais se met en place plein de gens qui se mettent à tricoter des carrés de 10 cm sur 10 de laine. Le foyer personnes âgées, le foyer Omer Caron, là, qui est à côté du foyer municipal, a été ouvert régulièrement dans la semaine pour que les gens viennent et puissent se mettre à tricoter. Donc les gens se sont rencontrés. D'autres assos, club de foot, je ne vous dis pas que les footeux se sont mis à tricoter, mais peut-être les mamans des footeux. Enfin. Et en fait, ce cache-nez a été, cette écharpe a été élaborée à partir de petits carrés de 10 cm sur 10. Et un jour, on a dit, on va le monter au terri. Et il y a 500 personnes qui sont venues porter, vous avez vu les photos, porter ces carrés de laine qui avaient été assemblés. Et ça part du plateau du terri jusqu'au sommet. Ça ne sert à rien. Sauf que les gens étaient super fiers de ça. C'était une très belle image de solidarité, d'un résultat, d'une coopération, résultat collectif, etc. Et toujours le lien à l'histoire et la fierté. Voilà. Ça, c'est un bel exemple aussi.
La fermeture de la mine dans les années 80 a constitué un choc énorme, duquel le territoire est parvenu tant bien que mal à se relever. En filigrane, la notion de résilience sous-tend l'ensemble de la démarche à l'œuvre depuis lors. Cette résilience s'apparente-t-elle à celle qu'il est nécessaire d'organiser face aux effets du réchauffement climatique et de la fin de l'accès à une énergie abondante et bon marché ?
On a, comme un peu partout en France, de temps en temps, on a des événements climatiques qui sont un peu plus soutenus que ce qu'il y avait auparavant. Le fait qu'on ait une politique de gestion de l'eau différenciée depuis 1997 fait que, par exemple, on n'a pas les pieds dans l'eau le jour où toutes les communes à côté sont submergées. Ça, c'est clairement se préparer à ce que va être plus tard les effets du réchauffement climatique. Donc sur une crise encore plus grave, le fait qu'on parte sur une autosuffisance énergétique, voire une autosuffisance alimentaire, puisque vous allez rencontrer Ménadel, clairement c'est de se dire si à un moment donné on n'a plus de ressources aux alentours, que ce soit du point de vue énergétique ou du point de vue alimentaire, on est autosuffisant. Notre récupération d'eau de pluie aujourd'hui, si tout d'un coup l'eau potable s'arrête, on a 3 semaines d'autonomie. Donc on ne l'a pas pensé pour la grande crise qui risque de nous arriver, dont je suis malheureusement persuadée. Je ne suis pas collapsologue, mais je me dis que l'effondrement est en marche. Et on ne l'a pas pensé comme ça, mais de fait. Comme en fait on a les éléments de réponse qui sont construits au fur et à mesure qu'on avance, eh ben, ça nous permettra peut-être, j'en sais rien, on verra l'ampleur, mais ça nous permettra peut-être de mieux résister.
La réaffirmation d'un discours catastrophique avec Pablo Servigne et tout le discours des collapsologues est venu, en fait, c'est venu réaffirmer quelque chose qu'on avait en substance, mais presque qu'on n'osait pas... qu'on n'osait pas dire complètement, quoi. C'est-à-dire qu'on portait tous ça, je pense, intimement. On n'en a jamais vraiment parlé, mais je sais qu'on a eu des discussions quand Servigne a sorti son bouquin avec Jean-François, qui était un peu tiède, quoi. En gros, à la fois, on le fait déjà, mais en même temps, est-ce qu'on prend vraiment la mesure de ce vers quoi on tend ? Et on s'est retrouvé pris un peu dans cet étau, dans ce paradoxe. Et donc, c'est venu effectivement réaffirmer, réancrer quelque chose et finalement légitimer encore beaucoup plus fortement ce sur quoi on était engagé. Donc, effectivement, cette logique de pic, cette logique d'effondrement au pluriel, elle est absolument centrale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc on porte un projet qui s'appelle la Fabrique des Transitions, qui vise à travailler avec tous ceux qui se mettent aussi dans cette posture-là, à l'accélération des transitions dans les territoires et dans les communautés. On a Claude Alfandéry, qui est un ancien résistant, qui a travaillé avec Jean Moulin à l'époque, qui est le président d'honneur du labo de l'ESS, qui nous dit, il tape du poing sur la table comme ça, il nous dit, les petits gars, c'est bien, c'est ça, c'est le Conseil national de la résilience, on est face à des effondrements, on est dans une logique de guerre. Et donc, quand nous, on le dit, ou quand on l'entend dire par de jeunes chercheurs, bon, c'est bien, on peut en prendre conscience, mais quand vous avez en plus le poids de l'histoire et la profondeur de champ d'acteurs qui ont vécu des effondrements majeurs, qui ont connu ce qu'était le rapport de force dans des conditions qu'on ne peut même pas s'imaginer, qu'on peut se représenter, mais qu'on ne ressent pas encore aujourd'hui, voilà, je pense qu'on est dans cette profondeur-là, en tout cas, historique.
Le récit, c'est donc la narration qui permet de donner une cohérence aux évolutions de la ville en les inscrivant dans une trajectoire logique qui prend en compte son histoire. À Los Angeles, cela s'est traduit par une pleine prise en compte du passé minier et du choc socio-économique des années 80 qui ont vu la fermeture des dernières mines dans la conception d'une stratégie de résilience en phase avec les enjeux écologiques actuels. Si le récit n'est pas réplicable, la démarche de mise en récit peut, partout ailleurs, être source d'inspiration. L'inspiration, justement, est au cœur de la démarche de la Fabrique des Transitions, portée notamment par Jean-François Caron et Julien Perdrija. Cette fabrique a vocation à devenir un espace ouvert aux acteurs qui souhaitent s'engager dans la transition à l'échelle locale, notamment pour mutualiser les apports des uns et des autres et les mettre au service des territoires. À la Traverse, on se sent extrêmement concerné par cette initiative. J'en profite pour vous annoncer que nous sortirons ce mois-ci un bilan de notre tour avec cette question centrale: qu'est-ce qui permet à des initiatives locales de transition de faire système ? Il apparaît en effet que malgré l'existence systématique de multiples initiatives, les dynamiques ne sont pas les mêmes partout. Plus ou moins collectives et plus ou moins systémiques, elles prennent des formes et des ampleurs très différentes d'un territoire à l'autre. De ce constat très simple découle donc cette question plus complexe à laquelle notre bilan prétend apporter des éléments de réponse. Qu'est-ce qui permet à des initiatives locales de transition de se transformer en dynamiques collectives et systémiques qui rendent les territoires plus résilients ? Ces réflexions viennent nourrir à la Traverse notre projet central, l'accompagnement des territoires. Grâce à ce Tour de France et aux enseignements que nous en tirons, nous sommes aujourd'hui prêts à investir pleinement cette activité d'accompagnement, même si bien sûr on n'arrêtera jamais vraiment d'apprendre. Mais la série radio continue et c'est la fin de cet épisode. Dans le prochain, sur Los Angeles toujours, maintenant que les bases du récit sont posées, nous parlerons concrètement des actions à l'œuvre sur le terrain, de l'écosystème d'initiatives sociales et écologiques et bien sûr des limites du modèle Lossois. Et d'ici là, malgré la période, portez-vous bien.